Le journal avec vous, Christophe Beck. Bonsoir.
Bonsoir à tous. Les permanences des députés LREM sous surveillance renforcée après la multiplication d'actes de vandalisme menés par des opposants au traité de libre-échange entre l'Europe et le Canada. Dernière visée, la députée de l'Oise, Carole Bureau-Bonnard, qui nous dira son incompréhension. Un responsable de la FDSEA de Haute-Garonne lui répondra que ces opérations vont se poursuivre. Après 30 hectares de forêt parcourus par les flammes, l'incendie de Saint-Mandrier dans le Var est fixé depuis le début de l'après-midi. La forêt aux petits soins en Islande, le pays s'est lancé dans un vaste plan de reboisement au nom de la diversité et du climat. En Inde, c'est le tigre qui fait l'objet de toutes les attentions. En 4 ans, les populations de tigres sauvages ont progressé de 30%, nous expliquera Sophie Bécherel. Le téléphone sonne s'intéresse ce soir à la délicate question des services publics, Yves Decamp.
Et oui, doter tous les cantons de France d'une maison des services publics ou bien payer ses impôts chez le marchand de tabac, ce ne sont pas les idées qui manquent pour rapprocher l'administration des Français et redonner vie aux communes rurales. Mais il en faudra beaucoup plus évidemment. Alors que faire? Vos questions, vos remarques au 01 45 24 7000.
À tout de suite, 19h20. Un dernier mot sur le Tour de France après les exploits d'Alaphilippe et Pinot pour Virgile Caillet, expert en marketing sportif. Il y aura un avant et un après Tour de France 2019.
France Inter.
La liste des permanences de députés La République En Marche vandalisée s'allonge dangereusement. Dernière en date, celle de la députée de l'Oise, Carole Bureau-Bonnard. La nuit dernière, de la paille a été déversée sous ses fenêtres et des œufs projetés contre le mur, accompagnés d'une banderole disant « Merci Carole pour le CETA », allusion au traité de libre-échange entre l'Union européenne et le Canada, ratifié la semaine dernière par l'Assemblée. L'intéressée dit son incompréhension au micro de Thomas Schoener, Carole Bureau-Bonnard.
C'est pas du tout une manière de faire, c'est-à-dire c'est une sorte de pression qu'on nous fait. Attention, si vous votez pas comme nous pensons que ça devrait être, eh bien la prochaine fois on fait quoi? À chaque fois qu'on va se poser la question, ah oui, mais alors ma permanence, mais est-ce que je vais pas être agressée? Est-ce qu'on va pas avoir des soucis? Et donc on ne peut plus voter par rapport au travail qu'on effectue. De toute façon, moi j'ai porté plainte. Hein. On aime travailler au moins dans la discussion. Et si on n'est pas d'accord, eh ben oui, c'est normal. On peut ne pas être d'accord les uns avec les autres, mais c'est pas de cette manière là que ça fonctionne. Moi, si je suis pas d'accord avec quelqu'un, je vais pas aller casser devant chez lui. C'est une conception qui m'est complètement étrangère et que, évidemment, je réfute complètement.
Voilà une manière que défend une partie de la profession agricole pour tenter de se faire entendre. Luc Besba est secrétaire départemental adjoint de la FDSEA de Haute-Garonne. Le syndicat avait donné rendez-vous ce matin aux députés La République En Marche du département qui ont boudé ce rendez-vous. Luc Besba prévient que les actions risquent de se poursuivre.
J'en pense qu'à un certain moment, chacun doit prendre ses responsabilités. Certains députés n'arrivent pas trop bien à comprendre l'enjeu du monde agricole. L'enjeu du monde agricole aujourd'hui, c'est de l'économie, c'est de l'emploi. Le premier employeur de la région Occitanie, c'est l'agriculture et l'agroalimentaire. C'est pas l'aérospatiale. Et je pense que nos députés ont un manque de considération des professionnels de l'agriculture et surfent sur une vague qui est les environnementalistes. Ils sont pas là. Bon, on a la faculté de savoir s'inviter chez eux. Peut-être que certains auront du fumier devant des permanences. Voilà, c'est tout. Ça fait, la symbolique est importante.
Le secrétaire départemental adjoint de la FDSEA de Haute-Garonne au micro de Stéphane Iglesis. Depuis une semaine, ce sont une dizaine de permanences parlementaires qui ont été visées par des actes de vandalisme. Le ministère de l'Intérieur ordonne la multiplication de patrouilles de police devant ses permanences. L'incendie de Saint-Mandrier dans le Var est désormais fixé depuis le milieu de l'après-midi. 25 à 30 hectares ont été parcourus. Un feu qui a mobilisé de gros moyens en raison de la topographie de cette presqu'île. Quelques 300 sapeurs-pompiers prépositionnés, 160 en action, renforcés par 7 avions et une quarantaine d'engins au sol. C'est un hélicoptère bombardier d'eau qui a porté le coup fatal à cet incendie. On écoute le colonel Jacques Baudot, chef du groupement territorial de l'ouest du Var.
Le feu est désormais fixé, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de progression. Mais il y a encore une surveillance active qui est en cours parce que de nombreux points chauds subsistent avec des fumerolles. Il y a encore un vent qui est puissant sur le secteur et surtout qui est prévu encore pour les journées de demain et d'après-demain. La presqu'île de Saint-Mandrier est très touristique, donc compte tenu de la période, il y a de nombreux vacanciers qui sont là. Et là, c'est une évacuation qui s'est réalisée dans le calme, puisque dans l'axe de propagation du feu, il y avait cette plage de la Coudoulière sur laquelle se trouvait une soixantaine de personnes. Mais environ une heure avant l'arrivée des flammes, on a pu évacuer calmement les personnes qui étaient là. De même que dans quelques maisons qui étaient très proches de la lisière et du feu de forêt. Tout le monde a pu regagner son domicile et il y a peu de dégâts matériels.
Le colonel des pompiers Jacques Baudot au téléphone d'Aurélien Accard. C'est une grève sourde qui ne cesse de s'étendre. Plus de 200 services d'urgence sont toujours en grève en France, en pleine saison estivale. Le service des urgences de Bastia est entré dans le mouvement aujourd'hui. Un mouvement national entamé à la mi-mars pour réclamer des lits, du personnel et de meilleures conditions de travail. L'Allemagne a remis ce matin aux autorités belges un Bosnien de 39 ans, poursuivi pour sa participation présumée aux attentats du 13 novembre 2015 au Bataclan, à Paris. La Belgique le suspecte d'avoir fourni des armes aux assaillants. L'homme avait été arrêté en Allemagne en juin dernier et faisait l'objet d'un mandat d'arrêt émis par les autorités belges. Jean-Philippe Deniaux.
Et les autorités allemandes ne donnent pas d'autres précisions. Le parquet fédéral belge ne communique pas davantage pour l'instant, notamment sur le rôle qu'aurait pu jouer cet homme dans la préparation des attentats du 13 novembre à Paris. De sources judiciaires françaises, ce suspect ne fait pas partie des personnes recherchées par les juges d'instruction parisiens. Il semblerait donc que l'homme actuellement en garde à vue à Bruxelles n'ait pas eu un rôle majeur dans la fourniture d'armes pour laquelle il était recherché en Belgique. Pour bien comprendre, il faut savoir que deux instructions parallèles sont menées sur les attentats du Stade de France, des terrasses et du Bataclan, l'une à Bruxelles, l'autre à Paris. L'instruction parisienne sera certainement bouclée à la fin de l'année avec la perspective d'un procès en 2021. Il y a pour l'instant 14 personnes mises en examen et 5 autres qui font l'objet d'un mandat d'arrêt. Un second procès pourrait donc être organisé en Belgique, mais uniquement avec des individus qui n'auraient pas déjà été jugés en France, puisqu'on ne peut pas être jugé deux fois pour les mêmes faits.
La fusillade d'Olioul dans le Var hier soir a tous les traits d'un guet-apens, affirme le procureur adjoint de Toulon, qui privilégie la thèse du règlement de compte sur fond de trafic de stupéfiants. De nombreuses balles et calibres de Kalachnikov ont été retrouvés au sol. Les deux victimes visées, deux hommes de 29 et 30 ans, avaient été condamnés à de multiples reprises pour violence et trafic de stupéfiants. Mais la fusillade a fait deux victimes collatérales. Un couple à scooter, originaire de Vesoul. La femme de 57 ans est décédée et son mari de 58 ans, sérieusement blessé. La femme victime avait créé une entreprise fromagère à Maillet et Chazelot, en Haute-Saône, où c'est la stupeur. Boris Johnson poursuit son tour du Royaume-Uni. Avant le Pays de Galles et l'Irlande du Nord, dans les prochains jours, le bouillonnant Premier ministre britannique était en Écosse aujourd'hui. La tournée nationale du ministre de l'Union, un titre qu'il s'attribue alors que beaucoup de ses interlocuteurs craignent une fracture du Royaume-Uni en cas de Brexit sans accord. À Londres, les explications de Marina Daras.
Que ce soit lors de sa rencontre avec la Première ministre écossaise Nicola Sturgeon ou avec la chef des conservateurs écossais Ruth Davidson, Boris Johnson a eu affaire à deux de ses plus fervents opposants. Pour la première ministre écossaise, la position de Boris Johnson sur le Brexit conduit le pays vers un désastre. Elle a rappelé au nouveau Premier ministre que les Écossais n'ont pas voté pour sortir de l'UE et encore moins pour en sortir de manière chaotique. Ruth Davidson, grande critique du nouveau Premier ministre, craint notamment qu'une sortie prématurée sans accord de l'UE, comme le prévoit et le promet Boris Johnson, ne renforce la cause indépendantiste de sa rivale Nicola Sturgeon. Boris Johnson a rappelé qu'il ne souhaitait pas sortir de l'UE sans accord, mais qu'il ne rencontrerait pas les leaders européens tant qu'ils n'auront pas accepté de négocier un nouvel accord. Il lance donc une sorte d'ultimatum à l'UE qui a déjà dit qu'il n'y aurait pas d'autre accord que celui de Theresa May, un accord que Boris Johnson a lui déjà enterré. À Londres, Marina Daras pour France Inter.
Au Brésil, au moins 52 détenus ont été tués lors d'une mutinerie dans une prison du nord du pays. 16 d'entre eux ont été décapités. L'administration pénitentiaire brésilienne explique qu'il s'agit d'un affrontement entre membres de factions rivales. Un geste de l'Italie sur le sort de ses 130 migrants bloqués depuis ce week-end sur un navire des gardes-côtes italiens dans un port militaire de Sicile. 16 mineurs ont été autorisés à débarquer aujourd'hui. Pour les autres, l'Italie attend un accord avec l'Union européenne sur la prise en charge de ces migrants. À Moscou, l'opposant Alexei Navalny a-t-il été empoisonné? C'est en tout cas le sentiment de sa médecin et de son avocate qui pointent l'effet d'un agent toxique non identifié. Emprisonné mercredi dernier, Navalny présentait des gonflements de paupières et des abcès au cou. Admis à l'hôpital hier soir, il a été reconduit dans sa cellule cet après-midi, alors qu'il n'est pas totalement rétabli. À Moscou, les explications de Léo Vidal-Giraud.
Alexei Navalny est déjà de retour en prison. L'opposant russe arrêté mercredi dernier pour organisation d'une manifestation non autorisée avait été hospitalisé dimanche en fin d'après-midi. Il présentait des signes d'une violente réaction allergique, des plaques rouges sur le visage, les yeux gonflés, des abcès au cou, au dos et au torse. Pourtant, d'après ses proches, jamais auparavant il n'avait souffert d'allergie. Pendant toute la journée d'hier, ses médecins et son avocate ont été empêchés de lui rendre visite. Finalement admis aujourd'hui et examiné après de fortes pressions, il décrive des symptômes pouvant relever d'un empoisonnement à l'aide d'une substance chimique non identifiée et demande à ce que son hospitalisation soit prolongée. Mais en début d'après-midi, l'hôpital dans lequel il se trouve a renvoyé Alexeï Navalny en prison. Son médecin, Anastasia Vassilieva, dénonce une décision politique et dangereuse pour la santé de son patient.
Manifestement, Alexeï a été renvoyé en prison sur un ordre venu d'en haut. Il n'est pas entièrement rétabli, il fallait le garder à l'hôpital. Le renvoyer dans un endroit où il a reçu une dose d'un agent chimique inconnu, sans la moindre analyse, ce n'est pas professionnel.
Ce n'est pas la première fois qu'Alexeï Navalny est hospitalisé. En 2017, il avait dû être opéré d'un œil en Espagne après avoir été aspergé dans la rue de Moscou par un produit chimique inconnu. Il avait alors failli perdre la vue. Moscou, Léo Vidal-Giro, France Inter.
On parle beaucoup des forêts qui reculent sous l'effet de l'urbanisation, des incendies ou de la sécheresse. Voici enfin un exemple inverse, direction l'Islande, connue pour ses paysages de glaciers, de volcans et de prairies. La photo viking qui ont tout rasé pour les besoins de l'agriculture et à l'élevage qui avait besoin de pâture. Eh bien, l'Islande vient de lancer un ambitieux plan de reboisement, Jérémy Richard, au nom de la diversité et du climat.
Au milieu du sable et des pierres basaltiques, Darpnarsandur, vaste étendue lunaire au sud-ouest de l'Islande, Reit Oskarsson plante des pins et des épicéas. Il est responsable de stratégie du service forestier.
C'est l'un des pires exemples d'érosion du sol en Islande à basse altitude. Ici, nous prévoyons de reboiser le terrain pour stabiliser le sol et protéger la ville voisine des tempêtes de sable et de poussière.
Des dizaines de serres produisent aux quatre coins de l'île, comme celle de Kvistar, près de Reykjavik. Jusqu'à 900 000 pins et peupliers y poussent chaque année. Holmfríður Geirsdóttir est horticultrice.
À l'origine, ils viennent de l'Alaska, mais nous avons maintenant des arbres de 30, 40 ou 50 ans qui donnent des graines. Nous les collectons et nous les utilisons pour la production de plants.
Les forêts islandaises rasées par les Vikings reprennent vie petit à petit depuis la seconde moitié du XXe siècle, lentement car la croissance est plus longue qu'ailleurs. Aðalsteinn Sigurgeirsson, directeur adjoint du service forestier.
Ce qui a principalement nui à la croissance des forêts ici, ce sont les températures basses et la fraîcheur des étés. Mais nous nous rendons compte que cela change à cause du réchauffement planétaire.
Le gouvernement islandais a fait du reboisement l'une de ses priorités pour réduire ses émissions de CO2. Reykjavik, Jérémy Richard pour France Inter.
Le saviez-vous, ce 29 juillet est la journée internationale du tigre. Occasion de célébrer une réalisation historique de l'Inde, selon les mots du président indien Narendra Modi, le pays s'est engagé à enrayer le déclin des populations de tigres sauvages, avec un succès indéniable, puisqu'en moins de 4 ans, leur nombre a augmenté de 30%. Avec désormais 2967 tigres sauvages, l'Inde est le pays d'Asie du Sud où l'on trouve le plus grand nombre de ce grand félin emblématique de la faune sauvage. Mais en tout, Sophie Bécherel, ce sont 10 pays qui, en cette journée internationale du tigre, se félicitent de leurs efforts de conservation.
Oui, 100 000 tigres sauvages en 1900, 3200 seulement en 2010. Le tigre est toujours en danger de disparition. Et face à cet alarmant constat, ces 10 pays s'étaient mis d'accord sur un objectif modeste, doubler la population mondiale des tigres d'ici 2022, la prochaine année du tigre dans l'astrologie asiatique. Le Népal y est déjà parvenu, 235 animaux recensés cette année contre 121 il y a 10 ans. L'Inde a parcouru un tiers du chemin, le Bhoutan ou la Russie progressent aussi, témoigne Emmanuel Rondeau, photographe professionnel qui vient d'achever une campagne pour le WWF au Népal.
Concrètement, tous les pays ont pris des décisions qui vont généralement dans le bon sens. Et aujourd'hui, il y a des décisions politiques, une suite de décisions politiques qui, pour quelques raisons qu'elles aient été prises, ont été prises et montrent des résultats. Et concrètement, il y a plus de rangers sur le terrain qui protègent, il y a des zones naturelles qui ont été élargies et tout ça, malgré tout, porte ses fruits aujourd'hui.
Si les effectifs remontent, c'est que les tigres sont donc moins chassés, moins braconnés et que leur territoire est préservé. 50 réserves en Inde couvrant un peu plus de 2% du pays. C'est ce qui importe aux félins, avoir un espace où il y a suffisamment de proies à manger. Son image de grand prédateur l'a aussi aidé.
Le tigre est une des espèces les plus emblématiques de notre planète. On a vu que Vladimir Poutine en Russie faisait un de ses chefs de bataille en associant, je pense, l'image du tigre à l'image qu'il se fait de la puissance de sa nation. Et donc le tigre a bénéficié de son image qui a encouragé toute une série de décisions dans différents pays. C'est ça qui est intéressant à voir. Le tigre est un élément de fierté nationale dans beaucoup de pays et ça l'a aidé.
Il n'est donc pas interdit d'espérer voir ce grand mammifère reconquérir des territoires perdus comme Java, Bali ou le sud de la Chine.
Sophie Bécherel, merci. Le Tour de France, même éjecté du podium ou contraint à l'abandon pour blessure, deux Français auront marqué durablement le cyclisme par leurs exploits dans cette édition 2019 du Tour de France. Julian Alaphilippe, vainqueur de deux étapes et maillot jaune pendant 14 jours, et Thibaut Pinot, vainqueur au Tourmalet et quatrième au général avant son abandon. Pour Virgile Caillet, expert en marketing sportif et délégué général de l'Union Sport et Cyclisme, il y aura un avant et un après Tour de France 2019. Il répond à Fabrice Abgral.
Il s'est passé quelque chose pendant ce Tour de France avec le public, un engouement incroyable. On l'a vu avec un élément extrêmement factuel que sont les audiences à la télé. Bien évidemment, il va y avoir un effet mécanique sur la pratique du vélo. En tout cas, ça va inciter les jeunes à aller vers le cyclisme. Des jeunes qui auront envie de ressembler à ces héros. Les Français et certaines équipes ont démontré qu'on pouvait gagner malgré Sky, malgré Ineos maintenant. Et donc, on pouvait courir autrement, que ça plaisait au public, que forcément, si ça plaisait au public, ça plaisait aux médias, que si ça plaisait aux médias, c'était un formidable tremplin pour les annonceurs. Puis, deuxième effet mécanique, c'est aussi l'industrie, l'industrie du cycle. On peut imaginer que ça redonne un peu un engouement pour l'achat de vélos de course un peu sophistiqués. Donc, on est en train de recréer un cercle vertueux, une dynamique positive pour les annonceurs, pour les coureurs, pour les médias, pour le public. Je pense qu'on va s'inscrire dans les quelques années qui viennent dans cette dynamique-là. En tout cas, je l'espère très fort.
Voilà, et puis sachez encore qu'au classement UCI, Julian Alaphilippe consolide son rang de numéro 1 mondial et Thibaut Pinot se hisse à la 4e place mondiale.
La météo, avec les volets roulants Velux, la protection efficace en cas de forte chaleur ou d'orage, fabriquée en France. À retrouver sur velux.fr.
Sébastien Léas, bonsoir.
Bonsoir Christophe, bonsoir à tous.
Du vent fort pour le nord-ouest.
Oui, on a déjà eu des rafales à plus de 100 km par heure sur les côtes du Finistère. Et le vent va encore souffler cette nuit, touchant aussi la Normandie et les Pays de la Loire. Demain, ces rafales se feront ressentir jusqu'à la Touraine, l'Île-de-France et au Nord-Pas-de-Calais. Dans les terres, le vent atteindra 60 à 80 km par heure. Mais sur les côtes, notamment sur le Sud-Bretagne et le Cotentin, les rafales pourront encore dépasser 90 à 100 km par heure. Ce vent vient d'une dépression située actuellement à moins de 200 km au large du Finistère et qui va se diriger vers la Manche et l'Angleterre. Position assez rare pour cette saison estivale. Et puis cette perturbation nous amène également des averses et des orages qui vont circuler jusqu'à demain sur la Bretagne et la Normandie.
Et c'est un peu plus calme ailleurs.
Oui, alors sur une large moitié ouest, la journée de demain sera quand même assez nuageuse avec quelques averses. Entre le nord Aquitaine, les Pays de la Loire, le bassin parisien et les Hauts-de-France, des éclaircies arriveront à se dessiner. Elles seront d'ailleurs plus franches l'après-midi. Et des Pyrénées au Massif central et à la Bourgogne, la matinée sera assez grise, mais les pluies seront plutôt faibles et intermittentes. Les nuages vont avoir tendance à se morceler d'ailleurs demain après-midi, mais en gagnant quand même les Ardennes, la Lorraine et le Lyonnais, effaçant les belles éclaircies du matin. En revanche, c'est le soleil qui va rester prédominant entre l'Alsace, les Alpes et sur les régions méditerranéennes. Côté température, il fera d'ailleurs 26 à 35 degrés sur la moitié est, mais sur l'ouest, l'ambiance va nettement se rafraîchir avec 18 à 26 degrés.
Sébastien Léas, merci.